Amusez-vous à essayer de maintenir votre attention stable pendant quelques secondes et vous constaterez à quel point l'exercice est parfois difficile. Notre cerveau, constamment sollicité par des informations et des distractions en cascade, doit faire preuve d'une redoutable volonté pour tenter de rester concentré. Notre attention semble de plus en plus menacée, mais heureusement, les neurosciences aujourd'hui peuvent nous donner des clés pour apprendre à la stabiliser. C'est cet après-midi le dossier de la tête au carré et j'attends dès maintenant vos messages, vos questions et vos témoignages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Un nouveau virus géant découvert dans le sol gelé de la Sibérie et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu. Un nouveau venu plus sournois et plus mystérieux que ses prédécesseurs que l'on vous présente avec son découvreur dans un instant pour la une.
C'est Stéphanie Texier qui réalise notre tête au carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Margot Dullard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Nos capacités d'attention au cœur du dossier de la tête au carré, ça nous intéresse tous beaucoup évidemment. Bonjour Jean-Philippe Lachaud.
Bonjour.
Vous publiez chez Odile Jacob le cerveau funambule pour comprendre et apprivoiser donc son attention grâce aux neurosciences. L'attention c'est un peu comme un animal sauvage qu'on s'efforce de domestiquer à chaque instant. La bête est dure à maîtriser, c'est compliqué.
Exactement, la bête est dure à maîtriser, mais je pense qu'il ne faut pas prétendre la maîtriser par la force, mais plutôt essayer de la comprendre, l'apprivoiser.
Oui.
Donc il y a un rapport à l'attention à développer.
C'est ça.
Voilà.
C'est assez déculpabilisant d'ailleurs, parce que vous dites à quel point il faut accepter aussi ces déconcentrations permanentes.
Exactement, la déconcentration est souvent le fait de forces dans le cerveau qui sont là aussi pour nous protéger. Donc il faut apprendre à vivre avec, les connaître et savoir les utiliser de façon intelligente.
Est-ce que les troubles de l'attention sont de plus en plus nombreux aujourd'hui? On a le sentiment en tout cas.
Ils sont de plus en plus souvent diagnostiqués, ça c'est sûr. Donc ça pose toujours le problème de savoir si c'est parce qu'on diagnostique plus qu'avant ou si effectivement il y a plus de troubles. En tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui s'en préoccupent. Et l'attention est en train de devenir un véritable enjeu de société.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. Et on va voir avec vous qu'il y a quand même des solutions pour parvenir à maîtriser. Vous donnez des clés intéressantes dans votre ouvrage. On va donc se retrouver dans un instant. Problème de l'attention qui concerne aussi bien les enfants que les adultes.
Absolument.
Aujourd'hui, on verra ça avec vous bien sûr. Franceinter.fr, l'adresse pour les auditeurs qui souhaitent nous écrire. Et à la une de la science, aujourd'hui, la fonte du permafrost sibérien qui est en train de révéler ses virus cachés.
James Hoffman, voici Ed Pollack. Il étudie l'impact sur l'environnement.
En même temps que le sol se réchauffe, le permafrost et tous ses éléments organiques gelés depuis des millénaires se mettent à fondre. Je crois qu'il y a une anomalie dans l'atmosphère qui est en train d'affecter le jugement de tous les
C'est des putains de conneries.
Maintenant, je peux vous le dire. Je vois quelque chose dans la neige.
Et ce quelque chose, ce sont peut-être des virus géants, extraits du film Catastrophe Last Winter. Jean-Michel Clavry, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du laboratoire Information Génomique et Structurale, professeur également de médecine à l'université d'Aix-Marseille. Et vous publiez donc aujourd'hui même la découverte d'un nouveau virus géant, vieux de 30 000 ans, retrouvé dans le sol gelé de Sibérie, donc le permafrost. Depuis 2003, c'est le quatrième virus que vous dénichez avec votre épouse Chantal Abergel. Après Mimivirus, Pandoravirus et Pitovirus, comment avez-vous appelé le petit nouveau ?
Molivirus.
Pourquoi ?
Parce qu'il est tout mou.
On
voit se déformer dans les cellules qu'il infecte. Et il nous fallait un nom.
Pourquoi il est mou, ce virus ?
On ne sait pas encore. Mais par rapport au virus qui est d'habitude dans des capsides un petit peu très solides, lui est résistant mais mou.
Donc il est plutôt singulier par rapport à ce que vous aviez découvert auparavant.
Absolument.
Et ces quatre virus dont font donc partie de la famille des virus géants, ils sont vraiment si gros que ça ?
Alors les virus géants ne sont pas une famille au sens technique, parce qu'ils ont des ancêtres absolument pas communs. C'est effectivement des virus qu'on peut voir au microscope optique comme une bactérie par exemple.
Ouais. C'est les seuls.
On ne peut voir
aucun autre virus.
C'est la redéfinition même.
Ouais. D'accord. 30 000 ans, donc c'est un âge vénérable pour un virus et qui vient bousculer un petit peu toutes les croyances que nous avions à leur sujet quand même, Jean-Michel Clavry.
C'est l'extinction de Néandertal, 30 000 ans, donc
ouais.
ça nous met en connexion avec notre vieil ancêtre. Effectivement, ce sont des virus nouveaux. Ce qui est le plus étonnant dans notre cas, c'est qu'à partir du même échantillon, on ait pu isoler deux virus totalement différents l'un de l'autre, ce qui laisse présager que leur diversité est absolument énorme.
Ah oui, au même endroit donc.
C'est le même échantillon.
Oui, on pouvait trouver deux virus différents.
Absolument.
Et ça, c'est une surprise aussi pour vous de
totalement,
taille.
Totalement. On avait découvert plutôt virus l'année dernière.
Mm-hmm.
Toujours se pose la question, on dit quand même, est-ce que c'est juste un quelque chose de bizarre qui ne se retrouvera qu'une seule fois? Et là, on se rend compte que ça a l'air d'être assez commun.
Mmh. Et là, ces virus que vous trouvez aujourd'hui sont capables d'infecter des cellules actuelles?
Alors, absolument. On travaille toujours sur des cellules d'amibes pour se protéger. On ne va pas s'amuser à ressusciter des virus capables d'infecter l'homme. Mais effectivement, ils infectent nos amibes de laboratoire tout à fait habituels.
Alors, comment vous faites justement pour vous assurer de l'innocuité de ces virus pour l'homme ou pour l'animal d'ailleurs pendant les recherches? Il y a un danger certain en tout cas à les manipuler. Il faut faire très attention à ce qu'on fait.
Nos virus à nous, non. Mais donc, la façon dont on procède, c'est qu'on a dans le laboratoire des cultures d'amibes qu'on maintient. On prend des échantillons dans le monde entier. On les teste, on les met en contact avec ces amibes. La plupart du temps, il ne se passe rien. Et quelquefois, elles meurent. Si elles meurent, c'est quelque chose qui les tue. Et là, ça nous intéresse. On regarde qu'est-ce qui peut bien se passer. Et c'est comme ça qu'on les découvre. Donc, depuis le début, la façon dont les expériences sont faites, c'est forcément l'amibe qui est notre cible. Mais dès qu'on a un virus qui est amplifié et qu'on peut isoler, on teste immédiatement sur des tissus et de souris et humains pour vérifier que ce n'est pas infectieux, pour nous protéger nous-mêmes de ne pas réveiller quelque chose de dangereux.
Et alors, celui-là, sur les souris, par exemple, ça donne quoi?
Rien.
Ouais, tranquille,
donc pas
de problème.
Tranquille pour les souris, tranquille pour l'homme.
On s'inquiète pour elles.
Donc là, vous avez fait 4 pêches et 4 virus qui ne sont pas dangereux pour l'homme. Vous parliez de Néandertal. Il est possible de trouver des virus qui ont infecté Néandertal dans ce sol?
Disons que ceux-là sont contemporains de Néandertal, puisque ces couches de terrain sont de 30 000 ans. C'est à peu près la dernière trace de Néandertal dans ces régions. Et donc maintenant, on est en train qu'on a découvert Pitovirus, on a rajouté, je dirais, un nouveau plan de recherche dans le laboratoire qui est d'évaluer un peu mieux, sérieusement, la dangerosité du permafrost. Et donc, on se concentre également là-dessus. Donc, on va chercher dans des couches de plus en plus profondes, donc âgées de plus en plus âgées, donc jusqu'à 600 000 ans, pour voir si effectivement ces nouveaux virus peuvent être découverts et peuvent être ressuscités depuis 600 000 ans.
Donc là, on fera un bond en arrière stupéfiant, parce qu'on passe de 30 000 à 600 000 ans. Donc ça, c'est une hypothèse pour l'instant, pour vous, d'aller chercher dans ces dates extrêmement anciennes.
Dans le laboratoire, l'endroit où les échantillons sont pris peut permettre de descendre à peu près jusqu'à 1 million d'années.
Ouais.
Donc on va y aller progressivement, bien sûr. C'est l'échantillon très précieux, donc on va essayer d'y aller tranquillement, 30 000, 100 000, 200 000... Ouais. 600 000.
Donc vous avez des belles carottes de glace en fait qui
c'est pas des carottes de glace, ce sont des carottes de terre, de tourbe, c'est de la tourbe gelée si vous voulez.
Ouais.
C'est pas très beau, c'est juste marron, c'est très fibreux parce que c'est l'accumulation de végétaux au cours des années qui pourrissent là et qui s'accumulent au cours des années.
La Russie a annoncé récemment vouloir exploiter les sous-sols du permafrost. Est-ce que pour vous, au vu de ces recherches, c'est une bonne idée?
J'attendais cette question, j'espère ne pas me mettre mal avec Poutine, parce qu'on a envie de continuer de travailler avec nos collaborateurs russes. Non, il est évident que ces couches profondes de permafrost ne sont pas menacées directement par le réchauffement climatique, puisque ça va mettre pas mal d'années avant de se dégeler, d'autant plus que c'est des régions où il
fait... On est à quelle profondeur lorsqu'on peut aller jusqu'à 1 million d'années?
30 000 ans. 30 000 ans, c'est 30 mètres. 1 million d'années, c'est 1 000 mètres, 800
D'accord,
mètres.
D'accord, donc 1 kilomètre à peu près.
Ouais. Kilomètre, voilà.
Donc là, on
et
a quand
après,
même...
la terre, comme vous avez au fond, se réchauffe et donc il n'y a plus de permafrost de nouveau, ça dégèle. Donc le permafrost, c'est quelque chose de transitoire, comme ça, sur à peu près, dans certaines régions, à peu près 1 kilomètre.
Donc là, pour l'instant, vous avez quand même des couches bien glacées.
Voilà, des couches parfaitement glacées et tout ça. Et donc, le danger, c'est effectivement le réchauffement climatique a libéré, comme vous savez, des routes maritimes qui n'existaient pas avant, parce que les glaces polaires, les mers sont libres de glace plus longtemps, et donc ça permet effectivement maintenant d'amener sur place de quoi industrialiser, de chercher des minerais, de faire des forages, tout ça. Et donc effectivement le danger ici, c'est que en faisant une exploitation industrielle de l'Arctique, on va remettre à jour des couches qui n'ont pas été perturbées certaines depuis 1 million d'années.
Ouais.
Et par million de tonnes, si vous voulez, et non pas juste par quelques grammes comme on utilise. Donc il y a effectivement un danger qui est totalement pas estimé à l'heure actuelle, mais c'est une possibilité.
Mmh. Et il y aurait des mesures à prendre pour être sûr qu'on ne va pas réveiller quelque chose, des forages précurseurs?
Alors, en même temps qu'on s'évertue à réveiller des virus d'amibes pour montrer qu'en principe, il y a encore des virus vivants dans ces couches, on fait ce qu'on appelle de la métagénomique, c'est-à-dire qu'on extrait l'ADN total de ces couches et on cherche à voir s'il y a des signatures génétiques de virus que l'on connaîtrait déjà qui pourraient être pathogènes pour l'homme. Mmh. Donc ça, c'est la deuxième phase du projet qui est en cours actuellement.
Ouais. À quoi ça sert, Jean-Michel Clavry, une telle découverte, au-delà évidemment de la connaissance purement scientifique? Est-ce que ça aide à réécrire l'arbre du vivant d'une certaine manière?
Eh bien, c'est effectivement l'aspect fondamental du travail, c'est qu'on a de plus en plus l'impression que le fait qu'on n'ait pas découvert ces virus géants avant récemment a l'air de montrer qu'il nous manque un petit peu quelque chose dans le scénario de l'origine de la vie, parce que la façon dont ils se présentent, le contenu de leur génome est très très inhabituel, et donc on a l'impression qu'il nous manque un peu un maillon et qu'on est en train effectivement de écrire peut-être un petit peu l'histoire du vivant sur cette planète.
Bon, ben j'espère qu'on vous accueillera peut-être dans un an ou deux pour nous dire que vous avez maintenant découvert un virus vieux de 600 000 ans.
Absolument, hein, j'espère aussi.
C'est ce que vous espérez.
Absolument.
En tout cas, et il est peut-être déjà dans votre laboratoire, dans cette glace que vous conservez. Merci beaucoup. Découverte donc avec Chantal Albergel. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Jean-Michel Clavry, publication donc ce matin même.
Hein. Absolument.
Vous étiez dans la tête au carré aujourd'hui. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Il pourrait s'agir du plus grand monument en pierre jamais découvert en Grande-Bretagne, voire en Europe, à Durrington Walls, à 4 km du célèbre site de Stonehenge. Des archéologues ont trouvé sous terre un autre monument grâce à un radar. Ils ont compté une trentaine de pierres dans un état parfait et une soixantaine plus abîmées. Certaines mesureraient près de 5 mètres et dateraient de plus de 4500 ans. Bientôt des enfants à la carte en Australie. Un projet de recommandation éthique concernant la procréation médicalement assistée propose à des couples sans souci de fertilité ni porteurs d'anomalies génétiques d'avoir recours à une fécondation in vitro. Cette pratique doublée d'un diagnostic préimplantatoire offrirait aux parents le choix du sexe de leur enfant. Les Australiens ont encore quelques jours pour donner par écrit leur avis sur ce projet. Et puis la vidéo du jour, c'est une boule de feu dans le ciel de Bangkok. Hier, 8h41 locale, les habitants de la capitale thaïlandaise ont pu assister à un événement spectaculaire. Un objet brillant qui s'est consumé pendant une fraction de seconde dans le ciel. Il s'agit très probablement d'une météorite. Les chutes ne sont pas rares, mais réussir à capter leur image n'est pas chose aisée. Et pour voir cette boule de feu, rendez-vous sur la page Facebook de La Tête au Carré ou sur notre compte Twitter. Restons attentifs, les clés en tout cas pour y parvenir avec notre neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud, l'invité du dossier dans un instant.
Quoi faire avec mon corps, le coucher tôt, le lever tard, lui faire faire le sport. Quoi faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort. Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir. Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant ou lui donner la mort. Je vieillirai avec, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai.
À l'instant sur France Inter.
Il fait 20 degrés, c'est la température idéale pour travailler. D'ailleurs, je m'y mets. On va se faire une bonne partie de golf.
Non, on joue pas au golf. Tu dois te mettre au travail.
C'est vrai. Allez, au travail. Que je vais rester cloué à ce bureau jusqu'à ce soir.
T'as plutôt intérêt. Maintenant, s'il te plaît, je suis ton ami, concentre-toi.
Ouais, je sais, je suis désolé, je remets toujours tout au lendemain.
Voilà, on pourrait parler de la procrastination également, Jean-Philippe aussi. Lachaud. Les troubles de l'attention, on va essayer en tout cas de mieux les maîtriser avec vous. C'est l'ambition en tout cas de votre livre qui s'appelle Le cerveau funambule, publié aux éditions Odile Jacob. Vous êtes neurobiologiste et directeur de recherche INSERM à Lyon au sein de l'unité dynamique cérébrale et cognition. Et les questions, les témoignages arrivent déjà nombreux. Hein, ça ne vous surprend pas, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Lorsque vous dites que vous travaillez autour de l'attention, autour d'une table, j'imagine que tout le monde a des choses à vous raconter sur le sujet. Hein.
Oui, oui, les questions fusent. Plus d'ailleurs qu'il y a quelques années encore, où l'accent était plus, quand on veut parler de cerveau, sur la mémoire ou les émotions. Mmh. Et là, le thème de l'attention est vraiment en train de sortir depuis quelques années.
Comme si le problème devenait crucial pour chacun d'entre nous d'ailleurs, puisqu'on peut l'observer dans notre vie quotidienne, à quel point il est difficile de se concentrer longtemps, et quand on dit longtemps, c'est peu de temps en réalité, voire 30 secondes, une minute sur une tâche.
Oui, évidemment, ça dépend si on apprécie l'activité ou non, mais de plus en plus, effectivement, on fonctionne par petits sprints attentionnels assez courts.
Oui, vous avez souhaité en tout cas un livre qui puisse nous aider pour la vie de tous les jours et à la lumière évidemment des neurosciences. Ouais. Comment on étudie l'attention justement dans votre discipline?
Alors, c'est un champ de recherche énorme. Il y a énormément de labos qui travaillent sur l'attention, de plein de façons différentes, jusqu'à déplacement de l'attention dans l'espace, de 10 cm vers la droite, enfin des choses hyper techniques. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir une vue un peu générale de ce qu'est l'attention et surtout de la relier aux questions qu'ont les gens dans la vraie vie. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que je suis distrait? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me concentrer? Ouais. C'est ça qui devient intéressant.
Quand vous parlez de déplacement, ça consiste en quoi exactement?
Oh, c'est simplement, je fixe, mettons, regardez devant vous, vous ne bougez pas le regard et puis vous allez essayer de déplacer votre attention sur la droite pour voir si par hasard il n'y a pas quelque chose qui s'y place tout simplement. Mmh. Donc ça peut être très technique l'étude de l'attention et à un moment il faut quand même remettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour arriver à répondre aux questions que se posent les gens.
C'est ça.
Tout simplement.
Vous-même vous mettez au point des tests dans votre laboratoire pour essayer de voir quel est l'équilibre attentionnel des individus?
Oui, alors au laboratoire nous on se concentre principalement sur le différencier d'un point de vue donc neurobiologique en termes d'activité cérébrale, un cerveau attentif et un cerveau inattentif dans des tâches de la vie de tous les jours qui peuvent être la lecture, etc.
Qu'est-ce que vous avez comme type de test alors pour ça exactement?
Alors différents tests qui vont, comme je disais, de la lecture simple. Et puis il y a un test qu'on a mis au point qui est à l'exposition cerveau à la Villette, qui permet en fait de mesurer sa capacité de concentration. Il y a un petit jeu à faire qui est très simple, mais qu'on répète toutes les deux secondes.
Ouais, vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Est-ce qu'on peut le faire ensemble à l'antenne avec les auditeurs pour...
On peut en tout cas l'imaginer. Donc vous êtes face à un écran, puis vous avez une petite lettre qui apparaît vraiment flashée. Hein. C'est un 5e de seconde à l'écran, et puis suivi de 4 lettres. Donc imaginez sur les 4 coins d'un carré. Donc la première lettre a disparu, et tout ce qu'il faut faire simplement, c'est appuyer, mettons avec la main gauche, si vous retrouvez dans ces 4 lettres, la première lettre. Mm-hmm. Donc est-ce qu'elle est là? Oui, j'appuie à gauche. Si elle n'est pas là, vous appuyez à droite. Mm-hmm. Donc c'est hyper simple, il faut mémoriser la première lettre, et ensuite la rechercher. Mm-hmm. Donc on aurait l'impression que pour le cerveau...
Ça semble simple comme exercice en tout cas.
Ça paraît très simple et surtout nous ce qui nous intéresse c'est de voir comment évolue le temps mis pour appuyer, donc pour faire l'exercice, de seconde en seconde. Et on s'aperçoit que là où peut-être on s'attendrait à une ligne droite, c'est-à-dire comme si on fonctionnait comme un robot, puisqu'en fait il n'y a pas de raison...
C'est toujours la même lettre c'est qu'on toujours recherche.
Alors la lettre on change mais l'exercice est vraiment toujours le même. Ouais. Et malgré tout on voit que le temps mis pour appuyer parfois triple. Donc on va mettre une demi-seconde, puis parfois une seconde cinq, trois secondes.
Ouais.
Parce qu'il y a une interférence avec d'autres processus mentaux.
Alors
on s'est mis à penser à autre chose. Ouais. Et c'est ça la distraction.
Alors même que la personne est en train de réaliser une expérience scientifique.
Exactement.
Donc elle est là pour ça.
Est là pour ça. On s'assure qu'il n'y a pas de distraction autour. Mm-hmm. Enfin, on les minimise en tout cas.
C'est ça.
Mais on est extrêmement efficace pour se distraire nous-mêmes.
C'est ça.
Pour s'inventer des distractions.
Alors qu'est-ce qu'elles vous racontent, les personnes qui justement voient leur temps de réaction se modifier?
Souvent, elles sont très surprises. Elles sont très surprises de voir à quel point effectivement leur vitesse évolue. Ah oui, je ne pensais pas que je me laissais distraire autant.
Oui.
Notamment, je me souviens avoir fait ce test avec des enseignants, un groupe d'enseignants avec lequel on travaille dans le cadre de l'entraînement de l'attention. Mmh. Et les enseignants découvraient, pour la plupart, à quel point l'attention est fluctuante, même sur des périodes très courtes, puisque le test dure une minute ou une minute trente.
C'est ça, ouais. Donc sur des périodes très très courtes.
Exactement.
Hein. Et on voit qu'il peut se passer tout un tas d'événements.
Exactement.
Sur des périodes aussi courtes.
Et si vous transposez au fait, là par exemple, je vous écoute, ce triplement du temps nécessaire pour le cerveau pour traiter l'information, il va avoir pour conséquence le fait de rater un mot important. Puis après, toute la chaîne, toute la cascade, qu'est-ce qu'il a dit, je comprends plus, etc. Et on est complètement, ça y est, on sort.
C'est vrai. La première réflexion que vous m'avez faite en entrant dans ce studio, c'est de me dire, mais comment vous arrivez à travailler avec des écrans de télévision? Parce qu'il faut dire aux auditeurs que dans ce studio, face à nous, sont disposés trois écrans de télévision qui sont d'une taille assez importante, avec les chaînes de télévision qui passent en permanence, les chaînes d'infos en particulier. Et ça vous a tout de suite marqué, évidemment, de voir la présence de ces écrans ici.
Exactement, je me suis dit que c'était un signe de notre société actuelle, peut-être.
C'est ça. Mais on peut traiter de plusieurs choses à la fois aussi, c'est ça. C'est qu'on peut réaliser une interview tout en jetant un œil à un écran de télévision, et puis poursuivre la conversation avec son invité, peut-être ?
Oui, alors on peut. Alors c'est ce que, là, j'ai appelé dans le livre l'échantillonnage attentionnel. L'échantillonnage, ça fait référence au fait qu'en physique, quand on prend des mesures, prenez la mesure de la température, par exemple, dehors, vous n'avez pas besoin de la prendre toutes les secondes, parce que vous savez qu'elle évolue pas si vite que ça. Vous pouvez la prendre tous les jours ou deux fois par jour. Donc en général, quand vous observez quelque chose qui évolue, vous n'êtes pas forcément obligé de l'observer en continu. Et donc quand vous êtes face à quelqu'un qui vous parle, l'information, en fait, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, forcément tous les mots, parce que vous êtes capable de prédire un petit peu ce que va dire la personne. Donc vous pouvez comme ça piocher, de temps en temps vous absenter pendant une demi-seconde, aller chercher, regarder ce qui se passe à l'écran et revenir. Enfin, on fonctionne tout le temps comme ça, en fait.
Oui, mais c'est dangereux parce qu'on peut aussi manquer des clés importantes de la conversation et pour le coup passer totalement à côté de ce que la personne va nous dire.
C'est là où, en fait, y a une différence, parce qu'on parle souvent de multitâche, on va peut-être y venir. Y a un peu un multitâche à la sauvage, où on passe d'une chose à l'autre un peu en fonction des circonstances. Quelque chose, imaginons que sur l'écran devant vous, il y a une image un peu flashy. Donc là, vous allez décrocher, mais c'est dû à l'écran. En fait, c'est pas vous qui l'avez décidé. Puis à l'inverse, vous avez un mode multitâche un peu décidé, un peu contrôlé de l'intérieur, où c'est vous qui décidez exactement à quel moment vous passez sur l'écran et à quel moment vous revenez.
C'est ça.
Et c'est toute la différence.
Voilà. Et c'est ça aussi l'attention. C'est de décider soi-même si on va passer à une information ou à une autre.
Exactement.
Éviter de se laisser embarquer dans ce tourbillon.
Ouais. Et ça, c'est un point important parce que, en parlant d'attention et de concentration autour de moi, souvent la réflexion qu'on me fait, c'est oui, mais on peut plus être concentré de nos jours parce que notre monde est tellement dynamique. Que fermer les écoutilles pour se concentrer sur quelque chose pendant 4 heures, c'est plus possible. Donc, je pense qu'il faut comprendre l'attention d'une façon nouvelle, beaucoup plus dynamique qu'avant. L'attention, c'est pas forcément quelque chose de statique. L'attention, c'est vraiment poser son attention sur un objet ou sur une tâche, mais contrôler à quel moment on passe d'une chose à une autre.
C'est ça.
Vraiment le contrôler.
C'est ce contrôle qui est
exactement
important.
Exactement. Et c'est ça qui va faire la différence avec un mode de distribution de l'attention complètement chaotique et complètement déterminé par le monde autour de nous. Donc la question, c'est finalement qui décide ? Est-ce que c'est mon téléphone, par exemple ? Est-ce que c'est l'écran ? Ou est-ce que c'est moi qui décide ce à quoi je porte mon attention ?
On va rentrer dans les détails, évidemment, avec vous tout au long de cette émission. Notre état d'attention, Jean-Philippe Lachaud, il change selon les heures aussi de la journée, où notre état de fatigue, notre concentration est basée aussi sur notre état physiologique, quand même, très clairement.
Oui, absolument. Il y a des facteurs physiologiques de base. Effectivement, quand le cerveau a moins de glucose, on va être ça va être un petit peu plus difficile d'être attentif. Bon, après, c'est une question de se connaître. Au fur et à mesure, on va amener le travail peut-être plus difficile, plus exigeant au niveau de l'attention, à des périodes où on sait qu'on est un peu plus frais. Certains vont travailler le matin.
Alors c'est ça, on dit souvent que le matin, l'attention est un petit peu meilleure et qu'à partir du déjeuner, les choses partent un petit peu en lambeaux. Est-ce que vous l'avez vérifié dans vos laboratoires ou pas?
C'est difficile à valider au niveau du laboratoire et je crois que finalement, on se connaît assez bien. On est souvent l'expert de sa propre attention. Vous avez des gens qui, le matin, sont complètement non fonctionnels, qui ont besoin d'être... qui travaille bien le soir au calme quand tout le monde est couché. Donc c'est vraiment personnel.
Ça peut-être que les professeurs qui nous écoutent pourront en témoigner dans des classes en tout cas, si l'attention de leurs élèves est meilleure le matin que l'après-midi. Il y a beaucoup justement de courriers de professeurs. François est professeur de français au collège. Il aimerait savoir quels conseils vous pouvez donner aux enseignants pour qu'ils aident mieux leurs élèves.
Alors, je pense qu'il faut, donc c'est évidemment une question importante, il faut se méfier de la fuite en avant. Parce que j'entends pas mal de remarques d'enseignants directement reliées à celle-ci qui disent puisque les élèves finalement ont ces contenus hyper interactifs tout le temps où il se passe tout le temps quelque chose, ils regardent des vidéos avec des changements d'image toutes les 3 secondes, plusieurs fois par seconde, finalement moi aussi pour capturer leur attention avec la même efficacité, il faut que je me déguise en Mickey, que je bouge dans tous les sens. Donc ça pose un problème parce que c'est une fuite, c'est une course à l'armement entre guillemets. Ce qui peut être intéressant, déjà, déjà finalement, c'est de que l'enseignant évite de mettre les élèves dans une situation de multitâche. Très souvent, en fait, si on creuse un petit peu des consignes que peuvent donner les enseignants, on va se rendre compte qu'ils demandent à l'enfant, à l'élève, de porter son attention sur plusieurs éléments à la fois, ce qui va les mettre en situation un petit peu inconfortable. Mmh. Après, il y a des choses toutes bêtes. C'est vrai que quand on montre une image sur un écran, si le contenu oral ne correspond pas à ce qui est montré, là encore, vous avez une attention qui va devoir se partager. Donc là encore, une situation d'inconfort attentionnel. Donc c'est difficile de donner des trucs vraiment comme ça en quelques secondes, mais il y a toute une série de petits points sur lesquels il faut être vigilant, voilà, pour pas éclater l'attention des élèves sur des objets incompatibles.
Ça peut être un vrai problème, en tout cas pour un enseignant, effectivement, de ne pas pouvoir maintenir une classe de façon attentionnée.
Oui.
On voit à quel point ça pose des problèmes.
Il y a une plainte, effectivement. C'est sûr que le long cours sur une voie monocorde qui dure une heure, cours magistral, a pas forcément de succès.
Ouais.
Mais là, on est en train de développer un projet à Lyon, sur un pilote, sur justement l'entraînement de l'attention des élèves. Mais là, notre parti pris, ça a été de considérer que l'élève n'avait aucun contrôle, aucune maîtrise sur l'environnement dans lequel il est. C'est-à-dire qu'on se place sur que peut faire un élève pour mieux gérer son attention, sachant que le cours est tel qu'il est, la salle de classe est telle qu'elle est.
Qu'est-ce que vous mettez en place alors concrètement du coup ?
Alors on met en place pour l'instant, on a fait une première année de test, on en a encore deux. C'est une série de 20 heures en fait, de 20 séances d'une heure qui vont en fait aller de la présentation du cerveau, donc comment fonctionne l'attention dans le cerveau, pourquoi est-ce qu'on se laisse distraire finalement, jusqu'à une sorte de boîte à outils qui vise finalement à ce que l'élève lui-même soit capable d'identifier les différents problèmes d'attention qu'il peut avoir, qui peuvent être différents, puisque on peut être distrait par ses propres pensées, par le voisin, par un bruit dehors, par une émotion, etc. Donc identifier et puis avoir une petite stratégie à mettre en place de chaque problème comme ça, et essayer de les autonomiser en commençant assez tôt finalement, puisqu'on on commence même à la moyenne section de maternelle.
Et ça passe déjà par la connaissance du cerveau, ce qui est important.
Exactement, voilà, de façon très simple, avec beaucoup, beaucoup de dessins.
Ouais.
Mais ils aiment bien.
Allez, on vous retrouve dans un instant après Beyrouth et beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Jean-Philippe Lachaud pour parler de l'attention.
I'm not afraid to die.
No, 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 nouvel album de Beyrouth à l'instant sur France Inter.
Bon, allez. J'en fais une et après je m'y remets. Là, allez, si je l'ai, je m'y remets.
Oh merde. Ouf.
Lop, 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 lop. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais?
Travaille, maman.
T'es sûr?
Je travaille.
Bon, tu viens jouer au mille-bornes avec nous?
Non, je peux pas, je t'ai dit, je travaille.
Oh là là.
J'ai une interro de maths demain.
Voilà, maintenant même les jeunes essaient de rester concentrés par rapport aux sollicitations de leurs parents, le jeune Chabert, dans le Péril Jeune, qui essaye de faire ses révisions. Pour parler de l'attention, le cerveau funambule, ça sort chez Odile Jacob, Jean-Philippe Lachaud, avec les messages franceinter.fr et les messages courts sur le mot-clé l'attaque. Est-ce que justement les nouveaux outils technologiques sont les principaux coupables de notre déficit d'attention aujourd'hui? Il y a une bascule là depuis 10 ans ou pas?
Alors c'est difficile, à part d'avoir un ressenti général, il n'y a pas eu de test, il aurait fallu mener le même test il y a 10 ans et maintenant pour comparer, c'est pas évident, mais il y a clairement un ressenti même personnel du fait qu'on est plus distrait. Ce qui est sûr, c'est que le cerveau est sollicité beaucoup plus qu'avant.
Ouais. Donc tout ça chatouille nos circuits de la récompense en fait, c'est ça le problème, c'est ce que vous expliquez. Ouais.
Voilà, parce que vous avez un circuit dans le cerveau qui est chargé d'orienter l'attention de façon un petit peu réflexe vers ce qu'on aime bien, ou vers ce qui, d'ailleurs aussi vers ce qui peut être dangereux. Hein. C'est le bon vieux système qui consiste à pas passer à côté d'une opportunité et pas passer à côté d'un danger aussi. Mmh. Donc risque, opportunité tout le temps. Ça se manifeste très concrètement maintenant avec nos téléphones, puisque finalement, quand on a des messages, des alertes, il peut y avoir un risque à l'ignorer. Et en plus, ça peut être franchement sympa. Donc le circuit de récompense va encourager une réorientation de l'attention vers ces messages-là.
Donc notre cerveau aime être récompensé.
Exactement.
Et c'est ce qui nous fait dévier en permanence sur les sentiers de l'inattention. Là.
Absolument, c'est une des sources de l'orientation réflexe de l'attention vers toutes ces petites alertes. Donc qui crée une discontinuité, qui empêche de se concentrer, ça c'est sûr.
Giron nous dit ceci sur franceinter.fr, on porte d'autant plus d'attention à ce qu'on aime faire ou pratiquer, et l'attention est alors soutenue.
Absolument.
Ça, c'est une règle...
Absolument,
universel.
Parce que donc il y a essentiellement trois grandes forces qui vont diriger l'attention dans le cerveau. Donc le circuit de récompense, on l'a mentionné, mais également un système d'orientation réflexe en fonction d'habitude. Vous avez une sirène de pompier qui sonne, ça va orienter l'attention. C'est pas parce qu'on adore les pompiers, enfin il y en a qui adorent, mais c'est plus réflexe. Et puis vous avez l'orientation de l'attention en fonction de vos objectifs, ce que vous devez faire. Donc ça, c'est l'attention plus volontaire. Mmh. Et en fait, ces trois forces vont constamment, vont un petit peu lutter les unes contre les autres pour déterminer ce qui est important. Et c'est une des sources de cette distraction un petit peu permanente, enfin de la difficulté à rester concentré. C'est inhérent au cerveau, parce que finalement, c'est aussi pour ça qu'on est capable d'éviter une voiture qui fonce sur nous, qui pourrait nous écraser. Donc il faut en tenir compte. Et il ne s'agit pas d'écraser deux forces au profit de la troisième, mais plutôt de jongler avec ces trois-là. C'est pour ça qu'on parle d'apprivoiser l'attention, donc les connaître. Et il y a une métaphore que j'aime bien, en fait, qui est un petit peu développée dans ce livre, c'est un petit peu celle de la voile. Si vous apprenez à faire de la voile, vous allez essayer de comprendre les forces de vent, de courant qui agissent sur votre bateau pour amener votre bateau où vous voulez. Et ce qui est différent d'une attitude qui consistera à essayer de lutter contre ses forces, pester contre ses forces, pour pousser votre bateau de toutes vos forces dans la bonne direction. Évidemment, c'est condamné à l'échec. Ouais. Donc il faut apprendre à connaître ses forces, les observer dans le quotidien, les comprendre à partir du fonctionnement du cerveau. Et là, il y a un progrès possible, une démarche possible d'apprentissage de l'attention.
Philippe, sur Twitter, nous dit ceci, les troubles de l'attention sont-ils aggravés par le zapping, le syndrome de petite poussette?
Oui, c'est sûr que ça ne va pas aider. C'est vrai qu'on a un petit peu tendance à donner l'image de mauvais garçon aux nouvelles technologies. Il faut voir aussi que elles peuvent aider l'attention, ne serait-ce qu'avec ces listes de choses à faire. Vous avez un truc à l'esprit, il faut absolument pas que je l'oublie, ça pourrait vous distraire parce que justement vous voulez pas oublier ce truc important, vous le notez tout de suite. Ou alors les petites alarmes, plutôt que de maintenir en tête le fait que vous devez absolument, quand vous arrivez à tel endroit, faire quelque chose, ça va vous être signalé, vous pouvez l'oublier, donc vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites. Donc c'est comme toujours avec un outil, il y a moyen de l'utiliser de façon intelligente et inintelligente.
Larry nous dit ceci, attention et énergie, trop peu d'énergie nuit certainement à l'attention, mais trop d'énergie tout autant.
Oui, parfois, il vaut mieux aller courir dehors, se calmer un petit peu. C'est sûr que ça peut aider l'attention, absolument.
En tout cas, ce que vous expliquez, ce qui cloche en réalité, c'est un défaut de filtre. Ça, c'est important aussi avec ce système qu'on n'active pas, en fait. Et si, justement, on pouvait poser des filtres, on pourrait mieux canaliser notre attention.
Voilà. Alors, l'attention joue de fait un rôle de filtre. Puisqu'il y a pas mal d'expériences récentes qui montrent que, de façon très convaincante, qu'on ne fait attention qu'à une petite partie de ce qu'on a sous les yeux. C'est le principe des tours de magie. Le magicien va utiliser le fait que vous filtrez, votre attention est focalisée sur certains éléments, et pendant ce temps-là, il va faire son tour de magie à côté, et vous ne le voyez pas. Donc c'est bien connu. Après, la question qui est posée, c'est celle de l'efficacité de ces filtres. Est-ce que ces filtres vont favoriser ce que vous aimez? Les petites alertes de téléphone, etc., la personne qui se tourne vers vous, ou ce que vous avez besoin de faire, votre travail. C'est toute la question.
Oui. Vous travaillez donc avec beaucoup d'enfants aussi?
Oui, là on vient de terminer une étude sur 1000 enfants pour évaluer justement l'attention, la capacité de concentration en fonction de l'âge.
Oui.
Et on voit très bien une augmentation de la capacité de concentration jusqu'à 20 ans à peu près.
Et après, qu'est-ce qui se passe?
Et après, en gros, c'est stable. En gros, c'est stable. Vous avez des petits effets à la marge, avec peut-être, à partir de 50-60, une légère baisse, mais c'est pas vraiment spectaculaire.
Ah, ça décline pas forcément avec l'âge?
Non. Alors, ce qu'on observe, ce qui est rapporté, c'est une attention qui est peut-être un petit peu moins fluide. Une attention peut-être un peu plus, ce qu'on appelle l'attention tunnel, qui va être focalisée sur des détails, mais à partir d'un certain âge. Mais vraiment, ce qui frappe quand on étudie l'évolution de l'attention avec l'âge, c'est vraiment surtout l'augmentation de la capacité de concentration avec l'âge chez les enfants.
Oui, et pourquoi alors? Parce que le cerveau en ce moment est en pleine construction. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on explique ce phénomène?
Alors, il y a une raison qui est assez simple et qui est bien connue. C'est que le système de guidage de l'attention, donc en fonction d'objectifs, donc de façon volontaire, c'est principalement le cortex préfrontal, donc la partie antérieure du cortex, juste derrière le front. Et cette partie arrive à maturité en fin d'adolescence. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles l'attention s'améliore jusqu'à l'âge adulte.
Donc on a une sorte de capital attention qu'on garde à peu près toute la vie, si je vous comprends bien, même s'il y a des petites nuances. Mais
Oui, mais alors ce qu'on a vu dans le test que je décrivais tout à l'heure, que j'essayais de décrire en fonction de... qu'on a fait passer donc à pas mal de gens en fonction de l'âge, c'est quand même que notre attention est globalement pas excellente, loin de là. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour une amélioration.
Oui.
Donc il ne faut pas garder en tête l'idée qu'on a une attention, un capital d'attention qui va ne faire que décroître. Je crois que l'attention, ça s'apprend et qu'on peut vraiment énormément progresser, quel que soit l'âge.
Oui. Justement, il y a des questions sur la méditation. C'est Hélène qui nous dit ceci. Existe-t-il des recherches scientifiques sur la méditation et ses liens à l'attention? Vous y faites référence aussi dans votre ouvrage. Et c'est vrai que par moments, on pense beaucoup à l'exercice de la méditation, dans ce que vous proposez en tout cas de clés pour améliorer son attention.
Certainement, la méditation est une voie très intéressante, très efficace d'entraînement de l'attention. J'ai mon voisin de bureau qui s'appelle Antoine Lutz et qui est un des pionniers des recherches en neurosciences sur la méditation.
C'est lui qui a mis des capteurs sur Mathieu Ricard,
voilà,
je crois.
Exactement, voilà. C'est facile à comprendre parce que finalement, les instructions de méditation sont des instructions décrivent une stratégie attentionnelle. C'est vous maintenez votre attention sur une cible qui peut être la respiration, les sensations du corps. Dès que vous sentez que votre attention est en train de partir, vous la ramenez. Donc, c'est pas complètement étonnant, vu la consigne, que ça finisse par entraîner l'attention.
Oui, les techniques se rejoignent en tout cas avec la méditation. Donc, finalement, voilà, les neurosciences et un domaine comme le bouddhisme, par exemple, peuvent avoir des choses à se raconter tout à fait intéressantes.
Absolument.
Ouais.
Et ce qui est. Enfin, après, je pense qu'à partir de là, une des idées que j'essaie de développer, c'est que finalement, chaque activité de la vie de tous les jours, au travail ou ailleurs, peut finalement se décliner sous une forme de méditation. Avec un objet d'attention qui va être privilégié et sur lequel vous allez revenir dès que vous remarquez qu'il y a un décalage. C'est l'image du cerveau funambule. C'est-à-dire que par rapport à une image d'une concentration très volontaire où on contracte les muscles, on fronce les sourcils, non, c'est plutôt l'idée que vous développez une sensibilité de plus en plus aiguisée au premier signe de la distraction. Donc vous êtes en train de partir, votre attention est en train de partir et tout de suite vous le remarquez, c'est là où c'est le plus facile.
Oui.
Et là, vous vous rectifiez et vous vous reconcentrez. Et finalement, c'est une forme de méditation. Mais ça peut s'appliquer à toutes les activités.
Donc à partir du moment où on est capable de formaliser en fait son inattention, c'est là qu'on peut retrouver le point d'équilibre.
C'est-à-dire qu'une fois que votre objet d'attention est bien défini, vous allez remarquer d'autant plus facilement que vous êtes en train de partir. D'autant plus que souvent, la dérive de l'attention va avoir une manifestation sous forme corporelle. Et ça, c'est pour des raisons qui sont bien connues. C'est-à-dire que les réseaux de déplacement de l'attention et du corps, par exemple des mouvements des yeux, sont extrêmement liés. Donc quelque chose attire mon attention, l'écran sur le côté à droite, mes yeux vont avoir tendance à partir pour aller voir. Donc je peux comme ça, donc il y a cette traduction souvent des déplacements de l'attention sous forme de déplacement du corps, et on peut à partir de là, donc dans un contrôle du corps, en fait stabiliser l'attention. D'où le funambule et d'où finalement la méditation.
Catherine nous dit ceci, je vous écoute depuis mon atelier de création dans lequel je travaille tous les jours, je réalise des accessoires sur mesure, je dois être très attentif sur ma machine en permanence, je me fixe un objectif de production tous les jours, je dois m'y tenir, je pense que c'est un bon moyen pour que mon attention ne soit pas perturbée à chaque instant par la musique ou le téléphone, je m'autorise également des pauses pour gérer une éventuelle fatigue tout en gérant mon temps de travail. Pas mal quand même, hein, là.
Oui, oui, oui.
On a des travaux pratiques là justement. Hein.
Oui, bah, c'est un des conseils les plus, disons, les plus fréquemment donnés et finalement les plus efficaces en matière d'attention, c'est de se fixer des objectifs très clairs.
Ouais.
Clairs, concrets et aussi à court terme.
Et court dans le temps, voilà.
Et court dans le temps. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de votre auditrice, puisqu'elle se fixe un objectif de
sur
fin
la journée.
Il est quand même plus efficace de se fixer des objectifs à très court terme, voilà, dans les, j'imagine, je ne sais pas quoi, la table mise, hop, ça là, j'imagine, c'est très, à très court terme. C'est quelques minutes, ça y est, au bout de. Je passe à autre chose après.
Ouais.
Donc en fait, par petits segments comme ça, ce que j'appelle des mini-missions, on évolue avec un fil à traverser, comme le funambule, pas deux, pas trois en même temps, on va d'un point A à un point B, et puis ensuite on passe à autre chose.
Il faut dire que notre cerveau est ultra rapide hein, sur sa capacité justement à nous emmener dans une autre action.
Et oui.
Tout ça se passe en des dixièmes de seconde.
C'est extrêmement rapide. Si vous voulez avoir une idée de la vitesse à laquelle le cerveau prend des décisions sur ce qui est important ou non, vous pouvez observer les déplacements de votre regard. Votre regard va en moyenne se déplacer 3-4 fois par seconde.
Oui.
Donc 3-4 fois par seconde, il y a une décision qui est prise pour aller regarder à un endroit et pas à un autre. Et l'attention, c'est pareil. Voilà, 3 ou 4 fois par seconde. Vous faites attention, vous décidez de faire attention ou non.
Voilà.
Extrêmement rapide, et c'est pour ça que parfois on se plante.
Jean-Philippe Lachaud, vous êtes notre invité. On poursuit notre discussion passionnante avec vous dans un instant et avec les messages des auditeurs.
Je croise des soleils aux ardeurs érotiques, avec des cris perdus sur des sourires de femmes, bercés par les étoiles d'une essence romantique. J'ai trop longtemps cherché mes visions dans les flammes. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. La vitesse de la lune autour de nos orbites n'arrête pas les sanglots froids de l'humanité. Et l'œil désespéré dans son triangle en quitte semble soudain jaloux de nos fiévreux baisers. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Gâche pas mon enfer avec ton paradis. Je veux brûler pour toi, petite. Mais lâche pas tes prières sur mes cris hypocrites. D'aucuns me disent rebelle et d'autres inifugés. Mais mes divagations n'emmerdent plus personne. Je caresse mon corbeau en chantant du Ruffle et joue pour les voyous virés de la Sorbonne. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je
stratégie de l'inespoir. Magnifique titre, Hubert Félix Thiéfen.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, beaucoup de messages pour vous, Jean-Philippe Lachaud, avec ce livre Le cerveau funambule, comprendre, apprivoiser son attention grâce aux neurosciences, Odile Jacob, et on voit effectivement un funambule avec au bout de sa barre deux cerveaux hein, pour le maintenir en équilibre. Et c'est pas toujours simple, effectivement, de garder cet équilibre, on non. le constate tous les jours.
Surtout qu'on en a qu'un seul.
C'est ça, et cerveau. Les parents nous envoient beaucoup de témoignages. Cette dame, par exemple, mon fils de 7 ans vient d'être diagnostiqué TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Je suis sa maman, je présente 8 signes sur 9 du TDA. Ce diagnostic a éclairé d'un jour nouveau tous mes choix de vie, les études, la profession, le mode de vie, les petits événements ou les ratés de ma vie quotidienne. C'est perturbant, mais très intéressant.
Ouais. Oui, c'est intéressant parce que ça oblige à prendre conscience de son attention, regarder comment elle fonctionne. On a tendance à, surtout aux États-Unis, à, une fois qu'on a diagnostiqué un trouble de l'attention, à prescrire des médicaments.
Ouais.
Je vais pas avoir une opinion forte là-dessus. Je pense qu'il y a certains cas où le médicament peut être utile. Mmh. Mais si possible, essayer de reculer l'échéance, reculer la prise de médicament au ouais. maximum. Le médicament, ça va être une prothèse. Est-ce qu'on peut pas envisager une forme de rééducation, des changements d'habitudes mmh. Qui peuvent éviter ça?
Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de parents avec des enfants en bas âge qui ont du mal au quotidien justement à donner un petit peu d'attention à leur enfant, ouais. à canaliser en tout cas leur énergie et qui peut-être un jour vont craquer, aller droit vers les molécules pour pouvoir ouais. justement les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire avant?
C'est la solution facile. Alors, il n'y a pas de remède miracle, hein, désolé. Là encore, c'est des pistes. Hein. Ce que j'ai pu constater, c'est que le fait, on en parlait tout à l'heure, de se donner des petits objectifs très concrets à court terme, ça peut fonctionner.
Ça, on peut le faire avec des enfants en bas âge
hein. Absolument, oui, parce qu'on peut voir le trouble de l'attention, enfin, bon, certains types, comme un manque d'endurance mm-hmm. en termes de stabilité de l'attention. Il y en a qui vont tenir une heure et puis d'autres vont tenir deux minutes. Mm. Donc, dans ce cas-là, bah, il ne faut pas hésiter à réduire, à découper ce qu'il y a à faire en petites tâches extrêmement simples. Que l'enfant va peut-être, s'il n'arrive pas à rester attentif 5 minutes, tenter 2 minutes. Mais mm-hmm. en 2 minutes, on peut faire des choses. Hein. En 2 minutes, on peut lire une page d'un livre. Enfin, ça dépend de l'âge, évidemment. Mm-hmm. Mais rester concentré pendant 2 minutes, c'est déjà pas mal. Et puis après, on enchaîne. Et surtout, on laisse des pauses, des respirations. C'est bon, on repart. Mm-hmm. Avec l'espoir que peut-être, au fur et à mesure, on va passer de 2 minutes à 3 minutes, mm-hmm. à 4 minutes. Alors, ce qu'on a essayé, ce qui marche pas mal dans les classes.
Le jeu marche bien, j'imagine, parce qu'il faut le prendre comme un jeu.
Oui,
aussi,
il faut le
avec
prendre absolument comme un jeu, pas comme une contrainte. Non, jouer avec un petit sablier aussi dans les classes. Mm-hmm. Donc, c'est pas pour stresser l'enfant, mais voilà, bah, tant que le petit sablier est en train de couler, bah, on reste sur l'activité. C'est complètement différent de se concentrer en sachant que ça va être pour 2-3 minutes avec quelque chose de simple à faire, ou pour une durée indéterminée. Mmh. Pour l'enfant, c'est différent. Donc c'est des choses à essayer.
Ce sont des mini-missions.
Des mini-missions, ah, voilà, avec dites, mini-mois et maximois.
Et ça fonctionne, effectivement.
À essayer, en tout cas.
Ouais. Ali nous dit ceci sur la page Facebook de La Tête au Carré. Pourquoi suis-je dans l'incapacité de rester concentré sur ce que mon interlocuteur me raconte, quand bien même c'est important, entretien d'embauche ou discussion avec des amis?
Eh bien, parce que, vous avez ces systèmes dont je parlais, ces différentes forces qui rentrent en compétition. Mmh. Vous écoutez quelqu'un et puis vous avez toutes sortes de pensées. Après, il faut que je fasse ceci. C'est important aussi. Donc, ces forces vont lutter les unes contre les autres et provoquer la déconcentration.
Ouais. Dans un face-à-face par rapport à ouais. une personne, au moment d'un entretien par exemple, est-ce que là aussi vous avez des conseils à nous donner? Rester concentré, je ne sais pas, sur le regard de la personne qu'on a en face de soi, ou qu'est-ce qui fonctionne?
Bah, y a énormément de facteurs de distraction lorsqu'on est rien que face à quelqu'un en train de discuter. Le regard, c'est extrêmement distrayant par exemple. Ouais. Les mouvements, sans parler de l'environnement. Ce qui peut aider, c'est d'avoir une stratégie attentionnelle claire. J'essaie d'en détailler certaines. Mm-hmm. Pour l'écoute, par exemple, alors ça marche pas avec tout le monde, mais il peut arriver qu'on n'ait pas un effort énorme à faire lorsque l'autre parle mm-hmm. pour imaginer les mots écrits, ou certains mots écrits,
oui.
quand on est avec l'habitude du langage, de la lecture, etc. Donc ça, c'est un petit truc à essayer. Par exemple, vous dites France Inter, j'imagine France Inter écrit, comme ça, mentalement. Mm-hmm. Et puis comme ça, j'essaie de renouveler, comme si je transcrivais un petit peu par écrit, dans ma tête, ce que vous êtes en train de dire. Ça, enfin, je le donne, c'est à titre personnel, moi je l'essaye, ça marche parfaitement bien. J'ai essayé, ça dépend des gens, hein, c'est très personnel. J'ai fait l'expérience une fois de prendre une conférence de 20 minutes qui m'intéressait, à ce qui m'intéressait absolument pas, j'ai fait exprès.
Ouais.
Je dirais pas sur quel thème c'est, parce que... mais parfaitement rasoir, j'ai fait ça, et effectivement, j'étais parfaitement attentif pendant les 20 minutes. Donc c'est des trucs à essayer. Mmh. Après, il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est de se poser des questions. ça. Qu'est-ce qu'il va dire après? Et après, utilisez les petits blancs aussi, vous savez. Quand quelqu'un parle, il y a toujours les petits blancs. Mm-hmm. Dans ces blancs, vous allez loger une petite interrogation. Et qu'est-ce qui suit après? Et après, et après, et après. Donc il faut être actif, ça c'est certain. Ça va aider à accrocher.
Et à garder le fil, hein, effectivement.
Voilà, exactement.
On parlait de méditation, on va évoquer le yoga avec un extrait du Souffle des Dieux. C'est un documentaire.
Quand on respire dans certaines positions, on se concentre sur la position, sur l'instant présent. Cela ramène l'esprit vers le corps. Ça aide.
Voilà, mais c'est comme la méditation exactement. Hein.
Voilà.
C'est le même exercice à peu près. Jean-Philippe.
Exactement.
Est-ce que vous étiez attentionné à ce qu'on vient d'entendre ou est-ce que vous regardiez la télévision pendant qu'on écoutait ce son? Je vous prends la main dans le sac.
Alors exactement, parce qu'il y a un écran avec un sosie de Michel Polnareff qui est apparu et ça m'a vraiment distrait.
Voilà, donc en fait, on n'a pas écouté l'extrait qu'on vient de diffuser à l'antenne.
Ce qui montre bien l'aspect sélectif de l'attention.
Voilà, c'était
vous
exactement.
M'avez eu sur ce coup-là.
Marjorie nous dit ceci, dommage, je ne vais plus pouvoir vous écouter car je fais toujours autre chose quand j'écoute la radio. Ben voilà, on a perdu une auditrice également en cours de route. Mais on peut faire deux choses en même temps, écouter la radio et mener d'autres tâches quand même.
Oui, alors on sait que donc on peut très facilement, on peut faire ensemble des activités qui sont automatisées. Mmh. Vous faites les tâches ménagères, vous êtes en train de couper des radis ou des concombres, ça ne demande pas une attention énorme, sauf pour ne pas se couper. Mmh. On peut aussi, mais malgré tout, il faut une certaine attention et c'est par exemple ce que montrent les études sur le téléphone au volant.
Oui.
Puisqu'on sait que, enfin, toutes les études montrent que vous avez un ralentissement du temps de réaction.
Oui.
Lorsque vous êtes en train de conduire, même si l'activité de conduite est complètement automatisée, malgré tout, un obstacle apparaît, la voiture freine, vous allez mettre plus de temps à freiner. Si vous êtes, pendant ce temps-là, occupé au téléphone.
Oui.
Ce qui montre bien que même les activités automatisées demandent une certaine attention.
Et c'est grâce aux neuroscientifiques qu'on ne va plus pouvoir téléphoner et conduire en même temps.
Voilà, hein. Vous pouvez nous remercier.
Mais c'est ça, directement.
Malheureusement, le budget des amendes n'ira pas au financement des neurosciences.
C'est bête. Hein. Mmh. Sur Twitter, Anna nous dit ceci, la sieste permet-elle un regain d'attention? Question pour vous, Jean-Philippe Lachaud.
Alors, la sieste, oui, vous savez, l'efficacité du système attentionnel dépend de bonne concentration de certains neurotransmetteurs qui sont facilités, qui sont bien rétablis par le sommeil, la dopamine notamment. Donc oui, si vous avez besoin, si vous sentez que la sieste vous aide, c'est une bonne idée.
Ouais. Franck nous dit ceci, a-t-il été étudié que le fait de pouvoir calmer son agitation mentale permet de s'ouvrir à un état de conscience différent, une sorte de conscience amplifiée avec de plus grandes capacités? Là aussi, ça rejoint un petit peu la méditation.
Absolument,
quand même, hein.
Là je sens la question sur la méditation.
Oui.
Je vais la faire dévier pour la ramener plus spécifiquement sur l'attention.
Oui.
Ce qui est sûr et ce que je suis prêt à défendre, c'est que une attention stable sur un objet ou sur une activité permet en fait une connexion avec ce qu'on est en train de faire qui peut être extrêmement satisfaisante. C'est peut-être un petit peu dommage que de nos jours, justement, on passe sur des régimes attentionnels de bouts très courts, avec des objets d'attention, finalement des durées d'attention qui sont très courtes, en passant sans arrêt d'une chose à une autre, parce que j'ai l'impression qu'on peut passer à côté de cette connexion, de cette qualité de contact avec ce qu'on est en train de faire.
Marie vous pose une question, est-ce que l'attention a à voir avec l'intellect? Est-ce qu'on peut être peu attentif mais intelligent ou inversement?
Alors, c'est une bonne question à laquelle j'ai pas forcément de réponse, mais
vous avez le droit. Hein.
Voilà, exactement. Je connais même pas d'études sur le sujet.
Bon.
Par contre, ce que je peux dire, c'est que le fait de faire plus attention va quand même certainement favoriser la compréhension et la mémorisation. Donc, d'une certaine façon, quand on est plus attentif, on est aussi plus intelligent.
Dalla Hugues sur Twitter vous demande ce que vous pensez des open space pour la concentration justement au travail. Là, il y a des études qui ont été menées sur le sujet, je crois.
Oui, ben l'open space, c'est beaucoup de distractions et il suffit de discuter un petit peu avec les gens qui sont en open space pour dire que le travail, pour les entendre dire que le travail qui nécessite de la concentration, souvent, ils le font ailleurs. Mmh. C'est pas forcément une très très bonne idée.
Mon fils de 7 ans souffre d'un gros manque de concentration à l'école, nous dit Françoise. On essaie de voir quelles sont les causes de ce manque de concentration. Opticien orthophoniste qui confirme ce manque d'attention. Du coup, on lui suit depuis 6 mois.
Oui, c'est de toute façon une bonne idée de faire un bilan global, parce qu'il peut y avoir beaucoup de sources, de causes à un problème d'attention, absolument.
Merci beaucoup Jean-Philippe Lachaud d'être venu nous présenter donc nouveau livre, Le cerveau funambule. On vous avait reçu en 2011 hein, sur le précédent.
Absolument.
Quel était son titre, rappelez-moi.
Le cerveau attentif,
voilà,
qui était beaucoup moins pratique que celui-là. C'est vraiment, bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
Pour les tâches quotidiennes. Merci infiniment et bon retour dans votre laboratoire de Lyon. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Très attentif à notre conversation.
Bien sûr, moi aussi je peux vous poser une question à laquelle vous n'aurez pas de réponse.
Alors laquelle?
Où est Xavier Dupont de Ligonnès?
Ah ben ça, on ne sait pas.
Vous ne pouvez pas savoir, effectivement. Meurtre de toute une famille en 2011. Dupont de Ligonnès n'est pas forcément le coupable. Enfin, il est suspect numéro un, avec un grand A. C'est donc l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, et avec notre invitée Anne-Sophie Martin, journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires. Elle connaît très bien cette affaire-là.
Merci, à tout à l'heure après les infos.